Vous écoutez On lit pour vous.
Le Québec doit miser sur l'innovation pour améliorer ses routes, plaident des experts. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 2 juin 2026 dans Le Devoir. Le ministère des Transports du Québec, MTQ, et les municipalités devraient miser sur l'innovation pour construire des routes plus durables et freiner la détérioration du réseau. Il s'agit là de l'un des conseils prodigués par des experts en infrastructure qui plaident en faveur d'une nouvelle façon de construire et d'entretenir les routes au Québec. Plus de la moitié des routes au Québec sont en mauvais état et le déficit d'entretien atteint maintenant 31 milliards de dollars, selon des données du MTQ. Ce constat alarmant a incité des constructeurs et des experts en infrastructures routières, réunis sous le Regroupement pour de meilleures routes au Québec, à formuler des idées de solutions pour renverser la tendance. Le regroupement suggère notamment de créer un fonds de prévoyance destiné à l'entretien des actifs qui seraient protégés des urgences et des méga-projets. Au Québec, on a été obligé d'avoir une loi pour que les syndicats copropriétaires puissent avoir des fonds de prévoyance. On pense que les infrastructures routières devraient aussi avoir, elles aussi, leur fonds de prévoyance, a expliqué Caroline Amirault, directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, lors d'un point de presse tenu aux abords de l'autoroute Ville-Marie. Des chaussées plus résistantes. Les autorités doivent aussi envisager des méthodes innovantes pour construire des routes qui vont mieux résister au temps. Or, les appels d'offres dans le domaine de la construction de routes limitent le recours à des méthodes novatrices, estime Marc Jonca, président d'Eurovia. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour les entreprises, c'est qu'on répond à un appel d'offres avec une recette. On nous donne une recette comme un gâteau. On fait la recette comme on nous demande. On ne peut pas faire d'innovation en matière de matériaux dans les chaussées. On fait ce qu'on nous demande, un point, et c'est tout. A-t-il expliqué en ajoutant que la loi du plus bas soumissionnaire au Québec ne favorisait pas l'innovation. Les matériaux utilisés peuvent varier d'une route à l'autre en fonction de l'achalandage et la localisation de l'infrastructure. On parle d'enrobés bitumineux et de matériaux de fondation faits à partir de matières recyclées. Il faut juste les utiliser au bon endroit, a souligné Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction à l'École de technologie supérieure. Ces matériaux sont plus coûteux, mais leur meilleure performance en matière de durabilité peut être avantageuse pour le MTQ et les municipalités, fait valoir le regroupement. Par mesure d'économie, on pourrait toutefois augmenter la part de matériaux recyclés dans les enrobés bitumineux, avance David Ayotte, vice-président au développement chez Cola Québec. Aujourd'hui, on recycle à la hauteur de 14 % environ au Québec, a-t-il dit. Mais on est capable facilement de mettre jusqu'à 30 % à 40 % de granulats bitumeux recyclés dans des enrobés qui sont aussi performants que les enrobés vierges. C'était Le Québec doit miser sur l'innovation pour améliorer ses routes, plaident des experts. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 2 juin 2026 dans Le Devoir.
Le bonheur des Québécois. Un texte de Gérard Bouchard, historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité, publié dans Le Devoir du 9 mai 2026. En sous-titre, nos politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Le World Happiness Center, créé à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, effectue annuellement des sondages internationaux sur le bonheur des peuples. Ces sondages, qui placent régulièrement le Québec parmi les peuples les plus heureux du monde, me laissait autrefois perplexe. Mais le sérieux de la méthode et les témoignages d'experts crédibles ont vaincu mon scepticisme. S'agissant du Québec, ses résultats se heurtent à des paradoxes, mais ils se dissolvent lorsqu'on met les choses en perspective. Les conditions du bonheur collectif. Selon des sondages complémentaires de la firme Léger et des travaux effectués par des chercheurs québécois, de McGill, de l'UQAM, de l'Université Laval, on doit porter attention aux fondements socioculturels de notre société, à savoir 1. L'identité. C'est un ensemble disparate constitué de valeurs, de références mémorielles, de traditions langagières, de perceptions de soi et de l'autre, de croyances, d'émotions, le tout s'exprimant dans une langue et un corpus de symboles les plus divers. Vu à distance, on comprend que les contenus de ces composantes ne sont pas toujours propres au Québec, par exemple le français, la démocratie ou le rapport au territoire. Ce qui leur donne un caractère distinctif, c'est l'intensité de l'adhésion dont ils sont l'objet et les modalités, les contextes de leur intériorisation. 2. Un sentiment d'appartenance. Il est créé par l'identité et engendre un lien social, une solidarité. 4. Un sentiment de sécurité. Cette composante découle des deux précédentes. Dans une société normale, le citoyen ne vit pas dans un vide. Il se sent intégré à un ensemble qui le situe psychologiquement, culturellement, socialement, qui lui fournit des repères à partir desquels il construit sa personnalité. 5. La cohésion sociale. Elle naît d'un ensemble de normes, de coutumes, de conventions et d'attentes que les membres d'une société partagent. 6. L'intégration collective. Elle est favorisée par la facilité de s'insérer dans la vie sociale, d'établir des liens et de participer à la vie courante, rythme, travail, loisirs, allégeance communautaire et autres. Sur tout cela repose le bonheur d'un peuple. Or, le Québec obtient une note élevée pour chacun des indices qui viennent d'être évoqués. Les travaux signalés plus haut montrent, par exemple, que les francophones de naissance se classent mieux que les membres des minorités, y compris les anglophones. Ils se signalent aussi par le sens particulièrement fort d'une identité, d'une appartenance et d'une solidarité. Les politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Les protections juridiques du français accentuent ces deux traits. Les coûts relativement bas de la scolarité entretiennent des perspectives de promotion sociale, etc. Sera-t-on surpris par le fait que les États-Unis, la nation la plus riche au monde, ne se classent qu'au 19e rang dans cette échelle du bonheur? Les données montrent aussi qu'une région éloignée, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, enregistre un score très élevé, ce qui concorde avec ce que l'on sait de cette population. Identité très marquée, solidarité, confiance en soi, audace, vive conscience territoriale, forte culture familiale, tempérament festif. Paradoxe. Les résultats québécois sont le lieu de deux paradoxes. Selon le premier, les sondages du World Center nous disent que notre société est très heureuse, alors que des diagnostics fiables établissent qu'elle ne va pas bien. La sociologie peut ici nous venir en aide. L'état désordonné dans lequel la coalition Avenir Québec laisse le Québec est contingent. Nous y verrons plus clair après les prochaines élections, mais il est assuré qu'une nouvelle gouvernance plus avisée, vigilante et disciplinée pourrait réparer les maux dont nous souffrons maintenant, des maux qui n'ont rien de structurel. Pensons aux problèmes du logement, à la gestion erratique des finances de l'État, à la précarité des institutions culturelles et des services publics, aux fouilles du système d'éducation, au délabrement des infrastructures. Tous ces maux résultent d'une gestion défaillante et peuvent être corrigés. Or, les conditions à l'origine du bonheur collectif relèvent toutes des structures profondes de la société, celles qui ont mis beaucoup de temps à prendre forme et qui sont capables de survivre à des conjonctures défavorables. C'est le cas notamment de la dimension identitaire, de la solidarité et de la cohésion sociale. On pourrait en dire autant des fondements culturels de notre société. C'est seulement si les mauvaises conjonctures se multipliaient ou s'étiraient sur une très longue période que les facteurs structurels seraient affectés, entraînant un déclin de l'indice. Le second paradoxe semble renforcer le premier. Selon une perception générale, encore une fois parfaitement fondée, le Québec est une petite nation fragile, inquiète de sa survie. Des prévisions apocalyptiques se font même entendre périodiquement. Comment peut-on se sentir heureux dans ces circonstances? Je crois que c'est justement cette inquiétude qui nourrit ou accentue les traits collectifs mentionnés plus haut. Elle commande en quelque sorte l'érection d'un mur de protection contre un avenir menacé. Toute la société se mobilise à cette fin. Du même coup, elle dope les indices du bonheur en insufflant un besoin de rapprochement, de cohésion, de sociabilité et de solidarité. Les Québécois, dit-on, n'aiment pas la chicane. Ils craignent les divisions profondes, durables et tout ce qui ressemble à de la fragmentation collective, tout ce qui menace la cohésion sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils se méfient du multiculturalisme canadien et du néolibéralisme, deux systèmes qui favorisent l'individualisme. De même, ils craignent les effets du radicalisme. En matière de gouvernance, ils favorisent la concertation, le compromis, les consultations, la coopération, les alliances. Ce qu'on doit retenir de ces mesures du bonheur collectif, c'est que sous un jour qu'on pourrait tenir pour superficiel, elles témoignent à leur façon de la facture profonde d'une société. On aura aussi compris que les valeurs prises par l'indice d'une société à l'autre sont le produit d'arrangements, de montages structurels propres à chacune. Les nations scandinaves, unies par une histoire et un habitat commun, font peut-être exception. Je remercie Pierre Fortin et Mario Polaise qui m'ont aimablement signalé les résultats des recherches qui ont servi de base à ce commentaire. Fin de Le bonheur des Québécois, un texte publié dans la page idée du Devoir du 9 mai 2026 sous la signature de Gérard Bouchard.
Faire rayonner le Québec au-delà de nos frontières. Un texte de Nathalie Collard, paru le 8 juin 2026 dans La Presse. Sans explication très convaincante, le gouvernement caquiste a mis fin au financement de l'Association internationale d'études québécoises, AIEQ. À quoi ça sert, au juste, des programmes d'études québécoises à l'étranger? Notre chroniqueuse en a discuté avec Steve Corbeil, un professeur québécois qui enseigne au Japon depuis 20 ans. Kim Thuy, Dany Laferrière, Gérard Bouchard. Ces trois auteurs québécois ont rencontré des lecteurs japonais grâce, entre autres, à l'Association japonaise des études québécoises, AJEQ, membre du grand réseau mondial de l'AIEQ, financé jusqu'à tout récemment par le gouvernement québécois jusqu'à 250 000 $ par an. Créé en 2008, l'AJEQ compte une centaine de membres au Japon. Des chercheurs japonais, pour la plupart, ainsi que quelques chercheurs québécois qui, par leur travail de réflexion et parfois de traduction, contribuent à faire rayonner le Québec dans l'archipel nippon. Plusieurs facettes de la société québécoise intéressent les Japonais, m'explique Steve Corbeil, que j'ai rencontré à Tokyo. Natif du Québec, ce professeur enseigne au département des études internationales de la Sacred Heart University, un établissement privé pour filles établi dans la capitale nippone. Il y a certains sujets qui sont plus populaires que d'autres,
comme la littérature, dit-il. Ce qui est intéressant, c'est de voir le type de littérature qui les intéresse. Par exemple, la littérature migrante, qui existe peu au Japon. Kim Thuy a fait fureur lors de son passage à l'université il y a quelques années, me confie-t-il. Mais pour pouvoir faire lire des auteurs québécois au Japon, il faut d'abord que les œuvres soient traduites. Et pour traduire, il faut évidemment du financement, précise le professeur Steve Corbeil. Souvent, les traducteurs sont aussi des chercheurs. C'est un phénomène qui est très commun au Japon. C'est une extension ou un prolongement de leur recherche. Notre révolution vue du Japon. Au-delà de la littérature, les Japonais s'intéressent à des phénomènes sociaux, comme la laïcité. Lors de son passage, Gérard Bouchard avait accordé des entrevues aux médias japonais. Le bilinguisme aussi les intrigue, ainsi que la loi 101. Je pense que c'est quelque chose qui est à la fois familier et très étranger, explique Steve Corbeil. Ils s'y identifient parce qu'ils comprennent ce qu'est d'être seul dans une mer d'anglais. Ensuite, il y a nos particularités. Le Canada est en théorie bilingue, mais il ne l'est pas. Le Québec est en théorie unilingue, mais ne l'est pas. Ils sont également intrigués par tout ce qui touche la Révolution tranquille. Une révolution qui a été tranquille, sans violence. Au fond, je pense qu'ils s'intéressent à nos paradoxes, avance le professeur Steve Corbeil. Les chercheurs japonais mènent aussi des études comparées entre les Aïnous du Japon et les Premières Nations au Québec. Soft power québécois. Un peu partout sur la planète, donc, le travail du réseau de l'AEIQ permet de faire rayonner le Québec pour pas cher. Récemment, l'Association japonaise des études québécoises a publié un livre composé de 56 chapitres sur le Québec. Steve Corbeil, qui écrit et enseigne en japonais, enseigne un sur la bière et un autre sur le hockey. C'est bien sûr des prétextes pour parler de la société québécoise, explique-t-il. J'ai écrit sur Brou pour parler des rapports entre Québécois à la bière et sur le chandail de hockey de Rock Carrier pour parler du rapport entre francophones et anglophones. L'AIEQ ne finance pas directement chaque association d'études québécoises à l'étranger. Elle accorde plutôt des sommes par projet. On parle de montants dérisoires. Nous avons une bourse de mobilité, la bourse Obata, qui permet à un chercheur du Japon d'aller au Québec pendant 2 semaines. Si on n'a plus le budget, on n'aura plus de bourse, souligne Steve Corbeil. Lorsqu'on tient notre congrès annuel, l'argent nous permet de payer le déplacement d'un Québécois. On parle du prix d'un billet d'avion. Steve Corbeil me fait remarquer que la France utilise beaucoup d'argent au Japon pour diffuser sa culture. Pour faire contrepoids, le Québec a aussi besoin de financement. Le Cirque du Soleil est très aimé au Japon. On n'a pas besoin de le financer, évoque Steve Corbeil. Mais il y a une autre partie de la culture que, si on ne la diffuse pas ailleurs, va rester seulement au Québec. Le rayonnement québécois passe inévitablement par les subventions, et les effets de ces subventions s'observent à long terme. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont découvert le Québec dans un cours et qui ont décidé ensuite d'y aller à leurs frais pour apprendre le français, ajoute le professeur. Ça participe à l'économie du Québec. Si tu n'as pas une base d'entente culturelle, faire des ententes économiques est difficile, sans référence commune. Il est important de dire aux Japonais qui nous sommes. Le soft power, le ruissellement, ça fonctionne. Cette économie de bout de chandelle de la part du ministère des Relations internationales et de la francophonie s'explique bien mal. Surtout de la part d'un gouvernement qui a déjà dépensé 20 fois plus pour inviter les Kings de Los Angeles, une équipe de hockey millionnaire, à venir jouer deux matchs dans la vieille capitale en 2024. C'était « Faire rayonner le Québec au-delà de nos frontières », un texte de Nathalie Collard, paru le 8 juin 2026 dans La Presse.
Vrai ou faux? Reconnaissez-vous les signes du cancer de l'ovaire? Un texte de Joanne Martin paru le 26 mai 2026 dans Virage. Souvent diagnostiqué à un stade avancé, le cancer de l'ovaire demeure l'un des plus redoutés. Chez les femmes ménopausées, plusieurs symptômes qui lui sont associés peuvent être confondus avec des troubles digestifs, hormonaux ou simplement attribués au vieillissement. Résultat, certaines femmes consultent tardivement. Vrai ou faux? Sauriez-vous reconnaître les signes du cancer de l'ovaire? Faites le test avec ces 10 affirmations. Vrai ou faux? Après la ménopause, les ballonnements sont normaux. Faux. Des épisodes de ballonnements peuvent survenir occasionnellement. Toutefois, lorsqu'ils sont persistants, nouveaux ou s'aggravent, ils doivent attirer l'attention, surtout après 50 ans. Le cancer de l'ovaire provoque souvent une sensation de ventre gonflé ou de pression abdominale, donnant l'impression que les vêtements deviennent plus serrés. Vrai ou faux? Le cancer de l'ovaire cause toujours une douleur intense. Faux. Au début, le cancer de l'ovaire peut être très discret. La douleur est souvent diffuse, intermittente et difficile à localiser. Certaines femmes ressentent simplement une lourdeur dans le bassin ou un inconfort abdominal qui tend à persister. Vrai ou faux? Une femme ménopausée peut développer un cancer de l'ovaire même sans antécédents familiaux. Vrai. Certaines mutations génétiques augmentent le risque, mais la vaste majorité des femmes atteintes n'ont pas d'antécédents familiaux connus. Comme pour plusieurs types de cancers, l'âge demeure l'un des principaux facteurs de risque, le diagnostic étant posé en moyenne autour de 63 ans. Vrai ou faux? Une envie d'uriner plus fréquente peut être associée au cancer de l'ovaire. Vrai. Il s'agit d'un symptôme moins connu, mais relativement fréquent. Une tumeur ovarienne peut exercer une pression sur la vessie et provoquer des envies urgentes, une augmentation de la fréquence urinaire ou une sensation de vessie incomplètement vide. Ces symptômes sont parfois attribués à tort au vieillissement ou aux changements hormonaux liés à la ménopause. Vrai ou faux? Si les symptômes vont et viennent, ce n'est probablement rien. Faux. Le caractère intermittent des symptômes peut justement retarder le diagnostic. Les professionnels de la santé recommandent de consulter si ceux-ci persistent pendant plusieurs semaines ou reviennent fréquemment. Ce qui doit inquiéter, c'est le changement par rapport à l'état habituel, souligne la docteure Lucie Gilbert, professeure au département d'obstétrique et gynécologie et d'oncologie de l'Université McGill. Vrai ou faux? Le cancer de l'ovaire est difficile à dépister tôt. Vrai. Il n'existe actuellement aucun test de dépistage simple et fiable pour la population générale, contrairement à la mammographie pour le cancer du sein. Des examens comme l'échographie pelvienne ou le dosage du CA125, une protéine mesurée dans le sang, peuvent aider dans certaines situations, mais ils ne sont pas assez précis pour un dépistage systématique. D'où l'importance de reconnaître les symptômes. Vrai ou faux, une perte d'appétit ou une sensation de satiété rapide peut être un signe. Vrai. Plusieurs femmes atteintes rapportent se sentir rassasiées après avoir très peu mangé. Cette sensation peut être causée par une pression exercée par la tumeur, une accumulation de liquide dans l'abdomen ou des perturbations digestives liées à la maladie. Une perte de poids involontaire doit également être évaluée rapidement. Vrai ou faux? Après la ménopause, les saignements vaginaux sont normaux. Faux. Tout saignement vaginal survenant après la ménopause doit être évalué par un professionnel de la santé. Bien que ce symptôme soit davantage associé au cancer de l'endomètre, il peut aussi accompagner certaines formes de cancer de l'ovaire. Vrai ou faux? Un mode de vie sain élimine complètement le risque. Faux. Aucune habitude de vie ne garantit une protection absolue. Toutefois, maintenir un poids santé, adopter une alimentation équilibrée et rester actif peuvent contribuer à réduire certains risques. Les facteurs hormonaux, génétiques et liés à l'âge jouent également un rôle important. Vrai ou faux? Plus le cancer de l'ovaire est détecté tôt, meilleures sont les chances de survie. Vrai. Comme pour la plupart des cancers, le pronostic est nettement meilleur lorsque la maladie est détectée à un stade précoce. Le taux de survie au cancer de l'ovaire varie considérablement selon le stade au moment du diagnostic. Au Canada, le taux net de survie à 5 ans se situe autour de 45 %. Lorsque le cancer est limité aux ovaires, ce taux peut dépasser 90 % selon certaines études nord-américaines. En somme, si le cancer de l'ovaire n'est pas entièrement silencieux, ses symptômes sont souvent subtils et difficiles à reconnaître précocement. La docteure Gilbert rappelle toutefois que la recherche progresse et que la vigilance demeure un outil précieux. C'était « Vrai ou faux? Reconnaissez-vous les signes du cancer de l'ovaire? » Un texte de Joanne Martin paru le 26 mai 2026 dans Virage.